Et sur France Culture, le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La soirée fut difficile pour Theresa May outre-Manche. La première ministre britannique a perdu un vote crucial sur le Brexit au Parlement, alors qu'aujourd'hui se tient un sommet européen pour enclencher des négociations sur les relations commerciales entre justement Londres et Bruxelles.
Et le scandale Odebrecht en Amérique du Sud fait tomber une nouvelle tête. Le vice-président équatorien est condamné à 6 ans de prison. Il a touché 11 millions d'euros de pots de vin de la part du géant du BTP, vous l'entendrez.
Dans ce journal également, le leader de la carte à puce, Gemalto, qui refuse l'offre de rachat d'Atos, la fin peut-être d'un projet d'un leadership français sur le marché de la cybersécurité, nous dira Jean-Marc Chardon.
Et puis nous irons au Palais Bourbon où des réformes du bureau de l'Assemblée se préparent pour que les députés soient mieux armés face à l'exécutif.
À 8h16, dans le billet politique de Frédéric Seyss, le gouvernement se délocalise à Cahors aujourd'hui et cette question, est-il trop parisianiste ? Mais d'abord, le spectacle à n'importe quel prix, quitte à mettre la santé des professionnels sur scène en danger. Nous passons ce matin derrière le rideau d'un spectacle de danse grâce à une enquête réalisée par la rédaction de France Culture. Les danseurs de la superproduction Carmina Burana travaillent dans des conditions indignes. Pas d'échauffement avant les répétitions, pas de visite médicale en cas de blessure, pas de paye pendant des mois. La CFA-CGT, syndicat professionnel des artistes interprètes, a saisi l'URSSAF et l'inspection du travail qui enquête en ce moment. La cantate scénique composée par l'allemand Karl Hoff est un succès auprès du public, tournée jusque début février en France. Mais derrière l'affiche qui titre faussement Opéra National de Russie, il y a donc une société française qui exploite 19 danseurs originaires des anciennes républiques soviétiques. Témoignage recueilli par Cécile de Kervas-Doué.
Pour une jeune danseuse, ça devait être une belle expérience, malgré le salaire dérisoire de 60 euros net par représentation. Mais dès le début des répétitions, elle déchante. Il faut danser 10 heures par jour, sans pouvoir s'échauffer, avec un seul jour de repos par mois et loger à deux par lit. Comme elle est moitié américaine, elle a accepté de témoigner.
Les gens ont commencé à se blesser. Ils n'ont même pas arrêté la musique et les danseurs continuaient en boitillant. Après, l'un d'entre eux avait le pied bleu. Il a voulu voir un docteur, mais la production a dit non. Tu sais, on va juste prendre une photo de ton pied et on va l'envoyer au médecin. Peut-être qu'on te mettra une crème. C'est là que je me suis dit que ce n'était pas possible d'abîmer mon corps pour cette production.
Surtout, elle a commencé à avoir peur de son employeur. À la veille de la première, alors que les danseurs n'ont toujours pas été payés, le patron arrive avec une mallette de 20 000 euros en liquide. Parce que, dit-il, quelqu'un l'aurait dénoncé auprès de l'inspection du travail. Roland Séropian, responsable d'Aramé Productions.
Il n'y a rien d'illégal jusqu'à preuve du contraire là-dessus.
Et donc vous payez en liquide, comme ça vous distribuez 1 000 euros à chaque danseur.
En liquide, c'est des artistes étrangers qui n'ont pas de compte en banque. Pourquoi on n'a pas payé avant? Les artistes, les trois quarts nous disaient non, pour l'instant, ce qu'on a, ça nous suffit, on préfère que vous nous veniez à la fin.
La jeune danseuse appelle alors au secours la CGT qui vient la chercher en pleine nuit à Mulhouse avec une autre danseuse blessée qui, comme elle, a choisi de fuir en attendant que la plainte du syndicat aboutisse.
Et l'enquête complète de Cécile de Kervas-Doué est à retrouver en longueur ce soir dans le journal de 18h de France Culture. Je vous le disais en titre, la fragilité politique, diplomatique de Theresa May est un peu plus exposée ce matin. Se tient aujourd'hui un sommet européen pour envisager la deuxième phase de discussion sur les futures relations commerciales entre Londres et l'Union européenne, sommet à Bruxelles. La première ministre britannique ne participera pas à cette prise de décision. Ses marges de manœuvre semble de toute façon se réduire un peu plus. Victime de la rébellion d'une partie de son propre camp, elle a hier soir perdu à 4 voix près un vote crucial sur le Brexit. Les députés ont décidé que tout accord final sur ce Brexit devra obligatoirement être ratifié par le Parlement. Ensuite, retour sur la soirée avec Aude Sophie.
The eyes to the right, 309. The nose to the left, 305.
4 voix sur 650 sièges, ça n'est pas beaucoup. Mais depuis le mois de juin, la majorité de Theresa May au Parlement ne tient qu'à 13 voix. Et avec le soutien de quelques frondeurs du Parti conservateur, plusieurs abstentions opportunes, ce sont donc 4 petites voix qui ont fait la différence. Le texte adopté contre la volonté du gouvernement prévoit que tout accord final sur le Brexit conclu avec l'Union européenne devra être ratifié par un vote contraignant du Parlement. Autrement dit, si les députés désapprouvent l'accord passé par l'exécutif, ils auraient le pouvoir de renvoyer Theresa May à la table des négociations. Ce vote met en évidence la situation délicate dans laquelle se trouve la première ministre. Le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, parle d'une perte d'autorité humiliante de Theresa May. Ce qui est sûr, c'est que ce revers intervient au plus mauvais moment pour elle. Seulement 6 jours après avoir réussi à trouver un compromis avec Bruxelles sur les principaux points clés du Brexit, et alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet européen qui doit notamment décider de passer à la deuxième phase des discussions sur les futures relations commerciales entre Londres et l'Union européenne.
Un sommet européen qui aura aussi pour objectif de faire un bilan des décisions prises depuis 2 ans par Bruxelles face aux flux migratoires. La question brûlante du statut de Jérusalem doit par ailleurs être abordée. Car si la nouvelle intifada annoncée par le Hamas ne semble pas avoir lieu, la tension est toujours grande au Proche-Orient. Les mots d'abord. Hier soir, Benjamin Netanyahou a affirmé ne pas être impressionné par les déclarations des leaders musulmans. Ils avaient appelé le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Tension dans le ciel également. Ce matin, l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes dans la bande de Gaza. Réponse au tir de roquettes mené un peu plus tôt. Un attentat suicide ce matin en Somalie, à Mogadiscio, la capitale. Une école de police a été visée, faisant apparemment plusieurs morts, dit la police, lors d'une parade ce matin. Les Chebab affiliés à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les forces de police. Le 14 octobre dernier, 512 personnes avaient été tuées lors de l'explosion d'un camion piégé. Plusieurs millions de dollars de pots de vin et à la clé, 6 ans de prison. Comme Lula au Brésil, le vice-président équatorien Jorge Glass vient d'être condamné pour association illicite. Un procès qui s'inscrit dans le scandale Odebrecht, un géant brésilien du BTP à l'origine d'un vaste schéma de corruption. Cela touche une dizaine de pays au total en Amérique du Sud. Et voici donc la première condamnation en Équateur, Eric Sanson.
Le vice-président équatorien était accusé d'avoir touché 11 millions d'euros de commission, l'équivalent de 1 à 1,5% de 5 grands contrats publics attribués en Équateur à la sulfureuse compagnie Odebrecht. Avec lui, ont été condamnées 4 autres personnes, dont son oncle. Ricardo Rivera est accusé d'avoir servi d'intermédiaire entre son neveu vice-président et des cadres de Odebrecht, qui aujourd'hui les accablent en échange de promesses de réduction de peine. Jorge Glass affirme être un prisonnier politique, victime de la guerre ouverte entre l'actuel chef de l'État Lénine Moreno et son prédécesseur Rafael Correa. Actuellement détenu, Glass refuse de démissionner. Il devrait être remplacé en janvier, une fois passé le délai de 3 mois pour abandon de poste. Pour l'ancien président Correa, qui le défend toujours, cette décision judiciaire fait partie d'un complot visant à l'affaiblissement des régimes de gauche. Il en veut pour preuve la décision de la justice brésilienne d'étudier dès janvier l'appel de l'ancien président Lula da Silva, lui aussi condamné pour corruption, décision qui pourrait compliquer sa candidature à la présidentielle brésilienne de 2018. Le scandale Odebrecht touche pourtant bien des régimes et pas seulement de gauche. Au Pérou, l'ancien président Ollanta Humala et sa femme sont actuellement en détention préventive et la justice a récemment perquisitionné les locaux du parti fujimoriste, accusé d'avoir reçu de l'argent d'Odebrecht lors de la récente campagne électorale de Keiko Fujimori.
Eric Sanson à Quito pour France Culture.
8h08, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal sur France Culture. L'idée d'un champion français de la cybersécurité s'éloigne.
Il devait naître du mariage entre le groupe informatique Atos et le leader des cartes à puces Gemalto, en difficulté en ce moment. Un rachat à 4,3 milliards d'euros. Beaucoup évoquaient, oui, l'idée d'un nouveau leader mondial dans le secteur stratégique de la cybersécurité et des services numériques, un leader français. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour Clara.
L'offre était présentée comme très amicale par le patron d'Atos, mais hier soir, Gemalto l'a refusée. Pourquoi Jean-Marc ?
C'est que l'offre du groupe Atos ne serait pas à la hauteur des ambitions de Gemalto. Insuffisante dans le montant de la proposition de rachat, plus de 4,3 milliards d'euros, vous l'avez dit, il en faudra davantage pour persuader les actionnaires. Les objectifs stratégiques d'Atos ne seraient pas suffisamment clairs pour les dirigeants de Gemalto. Son directeur général, Philippe Vallée, estime qu'il y a trop d'incertitudes dans le projet du groupe Atos qui ne donne pas suffisamment de garanties. Alors au-delà de ces arguments, il faut bien voir qu'il est de l'intérêt même de Gemalto de ne pas précipiter les choses. C'est une pépite industrielle et ça se mérite. Gemalto, surnommé le roi de la carte à puce, équipe près de la moitié de l'humanité aujourd'hui. Il est en perte de vitesse sur une partie de ses activités, une partie seulement, mais il considère avoir un grand potentiel de croissance. C'est la lecture en tout cas de ces dirigeants qui disent « Patience, on est dans une période de transition, on va se relancer avec un nouveau plan stratégique ». Ce n'est pas la lecture du groupe Atos de Thierry Breton, lui-même leader aussi dans les services numériques. Lui, il est beaucoup plus important en chiffre d'affaires en effectif, 100 000 salariés contre 15 000 pour Gemalto. Il aurait les reins assez solides pour devenir, à travers cet OPA, un géant mondial sur la cybersécurité. Un projet présenté comme attractif, le rassemblement de deux belles sociétés d'ingénieurs. Pour l'heure, Gemalto veut continuer sa route tout seul, à entendre son patron. Pour l'heure seulement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour un mariage possible.
Jean-Marc Chardon du service économie de France Culture. Édouard Philippe et son cabinet sont dans le Lot jusqu'à demain. Le Premier ministre s'est installé à Cahors pour aller, dit-il, vers les Français. Hier soir, il a rencontré les élus de la mairie. Aujourd'hui, il assistera à une conférence des territoires avec les élus locaux et 13 de ses ministres. La deuxième conférence du quinquennat Macron. Car mi-juillet déjà, elle avait été rapidement gâchée par une série d'annonces, baisse des dotations et des contrats aidés notamment. Depuis, les morceaux ont dû mal à être recollé et la séance s'annonce délicate pour le Premier ministre. L'Association des maires de France a déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Les collaborateurs parlementaires pourront-ils bientôt travailler de chez eux par ordinateur interposé? Comment mieux gérer les comptes du Palais Bourbon? Pour répondre à ces questions, des réformes sont en préparation. Première conférence à ce propos hier et Sophie Delpont y était.
Sur la table notamment, les 19 propositions sur les conditions de travail au sein de l'Assemblée nationale. C'est Michel Larive, député La France Insoumise, qui préside ce groupe de réflexion. Il propose des mesures pour améliorer le sort des collaborateurs parlementaires.
L'attribution de RTT en cas d'horaire supérieur à 35 heures. La question du télétravail pourrait être inscrite à l'ordre du jour. Je mentionnerai enfin deux autres sujets essentiels. D'une part, la rédaction d'un code de déontologie. Il apparaît souhaitable non seulement de recenser les droits et obligations des collaborateurs, mais aussi de réfléchir à l'évolution des clauses du contrat de travail en lien avec la déontologie.
La clause de confiance permet actuellement à un député de mettre fin à un contrat s'il estime que, selon lui, le lien de confiance est rompu sans autre justification. Sur la gestion financière de l'institution, Amélie de Montchalin, députée La République En Marche, met en avant l'expérience de l'entreprise pour les achats réalisés par l'Assemblée.
Pour que la machine se mette en marche et d'avoir du coup une politique générale d'achat qui soit beaucoup plus à la fois local, durable, suivi, qui met en valeur la production française.
Alors que plusieurs députés d'opposition s'inquiètent de la puissance de l'exécutif dans la mise en application de ces réformes, François de Rugy tient à réaffirmer le pouvoir de l'hémicycle.
Je crois que s'il y a une chose aussi à changer, c'est aussi dans les têtes des parlementaires que nous sommes, de ne pas considérer, par exemple, que ces questions-là, in fine, c'est l'exécutif qui tranchera.
Prochaine étape, en janvier, le bureau de l'Assemblée nationale sera saisi pour évaluer de nouvelles thématiques avec deux débouchés possibles, l'adoption de mesures pour le fonctionnement interne de l'Assemblée par voie réglementaire et l'introduction d'autres mesures au sein de la réforme constitutionnelle à venir dans un délai de 6 mois.
Une réforme constitutionnelle qui pourrait réduire notamment le nombre de parlementaires en France, qui pourrait aussi supprimer la Cour de justice de la République, Emmanuel Macron estimant que les ministres eux-mêmes doivent rester comptables de leurs actions devant les juridictions de droit commun. Mais aujourd'hui, cette Cour de justice de la République, elle est toujours saisie et elle va d'ailleurs devoir rendre un avis sur les révélations faites sur Jean-Jacques Urvoas. L'ancien ministre de la Justice est soupçonné, lorsqu'il était en poste, d'avoir transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête qui le concernait. Le procès de Salah Abdeslam, prévu lundi dans 4 jours à Bruxelles, sera probablement reporté. Le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre devait y être jugé pour une fusillade à Bruxelles lors de son interpellation, c'était il y a 1 an et demi. Mais son avocat, a demandé le report du procès, Antoine Marette.
La première information, c'est que Salah Abdeslam a un avocat, Maître Sven Mari. Il avait déjà été son avocat avant de jeter l'éponge à l'automne 2016, pour finalement donc revenir. C'est lui qui a demandé le report du procès pour pouvoir consulter le dossier de son client. Mais ce sont les 3 juges qui vont prendre la décision sans doute lundi matin. Luc Hénard est le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
Il est hautement probable probable que les parties en cause aient des contacts entre elles pour voir s'il y a une opposition à cette demande de remise. Si ce n'est pas le cas, il est hautement probable que le tribunal accède à cette demande.
Le report du procès fait donc désormais peu de doute. Reste une question, Salah Abdeslam sera-t-il présent lundi matin dans le box des accusés ?
Certain que si l'hypothèse de la remise devient de plus en plus vraisemblable, M. Salah Abdeslam ne sera pas présent lui-même, il sera alors représenté par son avocat.
On s'oriente donc vers une annulation du transfèrement de Salah Abdeslam et pour le report de son procès sans doute vers la fin janvier, voire le début du mois de février.
Enfin, c'est un changement qui commence à faire son chemin chez certains. La fin des ondes FM pour capter la radio. En France, elles sont utilisées en majorité. Mais la Norvège, hier, les a coupées au profit de la radio numérique terrestre, via Internet donc. La Suisse, le Royaume-Uni ou encore le Danemark devraient bientôt limiter. Fini les transistors. En France, la radio numérique terrestre n'est disponible qu'à Paris, Marseille et Nice. Et vous qui nous écoutez peut-être sur un transistor, voici la météo à venir de ce jeudi. Des averses localement orageuses. Seule la Méditerranée sera épargnée. Les températures encore douces, entre 4 degrés à Besançon et 13 à Perpignan.